Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Bienvenue, 7h42, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Arnaud Montebourg, chef d'entreprise, fondateur de la marque Bleu Blanc Ruche, ancien ministre et auteur de ce livre, L'engagement aux éditions Grasset.
Oui, bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour.
L'esprit marinière est-il de retour? C'est l'un des chapitres de votre livre. On se souvient de cette marinière, symbole d'un engagement pour le Made in France, l'industrie, l'emploi. Vous racontez vos déceptions, vos trahisons, Hollande, Valls, Macron. Avant de revenir en détail sur les leçons que vous avez retenues peut-être, pour votre nouvel engagement, peut-être la bataille de 2022. Un mot sur ce qui se passe aujourd'hui, justement. Macron qui ordonne à Darmanin de reculer sur la loi sécurité, ça vous rappelle ces instants politiques que vous avez vécus, justement? Il faut battre en retraite, quel que soit le bien fondé d'une idée ou pas?
Il faut déjà écouter la société.
Oui.
La société, elle a des aspirations. Donc, gouverner de façon unilatérale et brutale, dans un pays où il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est-à-dire que les décisions sont prises en fait par la haute administration, portées par les ministres, et puis tout ça, après, le Parlement, c'est une chambre d'enregistrement, et puis après, on exécute. Finalement, le système politique aujourd'hui, en France, est un des moins démocratiques du monde occidental. Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir en France.
Il peut y avoir à l'Assemblée s'il y avait une opposition.
C'est une théorie qui ne s'est jamais vérifiée.
Ouais.
Jamais. Il y a eu un seul gouvernement qui a été renversé, c'est celui de Georges Pompidou en 1962, sous la Ve République.
Après, il y a eu les cohabitations, mais c'était différent.
C'est autre chose. Les électeurs qui ont décidé de mélanger, justement. Donc il n'y a pas de contrepoids dans le Parlement. Et donc le Sénat fait de la résistance et l'a toujours fait. Mais c'est une chambre qui est assez monocolore et conservatrice, donc on voit bien que il n'y a pas d'équilibre dans le système et il n'y a pas de responsabilité de celui qui prend les décisions de gouvernement, c'est-à-dire le président de la République.
Oui, le président de la République, il écoute quand même la rue puisqu'il demande à Darmanin, après ce qui s'est passé le week-end dernier, de reculer, de changer.
Mais vous voyez, tout le problème, c'est dans la phrase d'ailleurs que vous venez de prononcer, vous venez de l'identifier, c'est la rue. Est-ce qu'on est obligé, dans notre pays, de devoir manifester, d'ailleurs de plus en plus difficilement, d'affronter la police pour pouvoir se faire entendre? C'est absolument incroyable. Normalement, une démocratie, on se met autour de la table, on réfléchit ensemble, on choisit la bonne décision, on construit des compromis entre des gens qui ne sont pas d'accord. C'est ça, la vraie démocratie, telle qu'elle fonctionne dans tous les pays européens, d'ailleurs. Donc, on a des leçons à prendre, d'ailleurs, voyez, des choses qui marchent mieux dans d'autres pays que le nôtre.
Darmanin, il a intérêt à revoir son texte, c'est ce que vous dites aussi,
quand même. De toute façon, on voit bien que ça passe pas. Ça passe pas parce que dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a la possibilité pour chaque citoyen de demander des comptes à l'administration, à son administration, à tout agent public. Donc c'est normal. On demande des comptes à la sécurité sociale, à Pôle emploi, à la justice, à la police, à tout le monde. C'est normal.
Oui. Alors revenons sur votre livre, L'engagement. Vous étiez un peu en avance finalement auparavant sur les débats qui ont surgi avec la crise du Covid. Réindustrialisation, souveraineté, relocalisation, le rôle de la technocratie, de l'administration énarchique. Est-ce que c'est ce qui vous pousse un petit peu à revenir dans l'arène politique aujourd'hui ?
En tout cas, à tirer les leçons des erreurs du passé pour qu'elles servent au futur. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer que les Français puissent être entendus dans le système actuel. Moi, c'est ma position. Et c'est l'expérience très difficile du pouvoir qui me fait dire cela. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait sur les plateaux de télévision, entrerait dans l'arène politique et dirait « on va changer, ça va changer demain », ça ne changera pas si on ne touche pas les conditions dans lesquelles on a organisé le pouvoir.
Alors c'est quoi les conditions? C'est justement Bercy, comme vous l'avez connu, c'est cette
administration. C'est la technocratie surpuissante qui a pris le pouvoir dans notre pays. La technocratie, ce n'est pas que la haute administration.
Non.
C'est le personnel politique qui en est issu. C'est tous les patrons des grandes boîtes publiques et privées qui en sont issus, des banques, des assurances, à peu près. C'est-à-dire une espèce de monde, un cercle invisible qui a pris le pouvoir dans notre pays et qui, d'une certaine manière, l'administre à sa guise. Et selon ses vues, et entre nous soit dit, il y a quand même un certain nombre de choses qui posent problème. La façon dont on a vendu en pièces détachées Alstom, Technip, Lafarge, Alcatel et combien d'autres abandonnés de cette manière, c'est le produit de cette pensée assez mondialisatrice qui est celle de la classe dirigeante de notre pays et qui est finalement endogamique entre soi et qui tient le pays. Ouais. Voilà. Et c'est ça, c'est un énorme problème. Et c'est ce que je décris dans la machinerie du pouvoir.
Oui. Mais
comment ça fonctionne?
Est-ce que
les leçons qu'il convient d'en tirer.
Oui, avec le recul, est-ce qu'il y a des solutions, des suggestions que vous pourriez faire justement pour essayer de supprimer ça ou de gommer un petit peu tout ça?
Ah ben, d'abord, je pense qu'il y a s'il y a un plan social à faire, c'est le plan social au sommet de l'État. Ah ouais. Ça, c'est le seul plan social productif et constructif.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire qu'en vérité, à la tête des hautes administrations, il faudrait mettre des universitaires, des petits patrons, des syndicalistes, des gens qui connaissent la société et qui ne souhaitent pas la régimenter, mais qui souhaitent en quelque sorte la stimuler, l'aider.
Oui, mais
vous voyez, la vérité, c'est que nous sommes dirigés par des administrateurs. Qu'est-ce qu'un administrateur? C'est celui qui administre la vie des autres. Donc il la régimente, des lois, des circulaires, ça n'arrête pas.
Ouais.
Et en revanche, on aurait besoin, par exemple, d'ingénieurs. Un ingénieur, qu'est-ce que c'est dans une entreprise? Il y en a 500 000 en France. C'est quelqu'un qui construit des projets opérationnels.
Ouais.
Donc, qui rassemble les gens. Là, le système tel qu'il fonctionne, c'est un système qui, du haut, organise la société en bas.
Ouais.
Et ça, c'est un énorme problème.
Ouais. Mais alors, même si... parce que là, on a, par exemple, à Bercy, on a un chef d'entreprise, Alain Griset, qui était chauffeur de taxi, etc. Mais il est prisonnier après, quoi qu'il en soit,
Mais il n'a aucun poids politique.
Il n'a aucun poids politique,
Il n'a aucun poids politique, excusez-moi. Moi, j'étais ministre de l'économie, je raconte comment il est très difficile de se faire accepter par l'administration, et parce que l'administration, elle est là.
Ouais.
Les ministres passent.
Ouais.
Et
ouais.
elle décide.
Ouais.
Donc, pour la commander, prendre le commandement de l'administration, qui est le rôle constitutionnel du ministre, il est le chef de l'administration. Ouais. Mais c'est une œuvre très très matinale, il faut se lever tôt et se coucher tard.
Ouais. Voilà. C'est la façon de fonctionner d'Emmanuel Macron, justement, qui lui est issu de cette énarchie technocratie.
Non, Emmanuel Macron, c'est le produit pur, c'est l'inspecteur général des finances, donc c'est le produit de la haute administration, comme François Hollande était magistrat à la Cour des comptes, issu de la haute administration, comme l'a été d'ailleurs Jacques Chirac, comme l'a été son prédécesseur Valéry Giscard d'Estaing, et combien d'autres? À part le général de Gaulle, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, il n'y a pas d'exemple.
Oui.
Il n'y a pas d'exemple. Depuis la Ve République, de déviance par rapport à cette espèce de reconstruction, enfin de prise de pouvoir de la haute fonction publique.
Oui, alors c'est pour ça que vous vous engagez peut-être pour 2022?
Ah ben je n'en suis pas là. J'en suis d'abord à raconter cette histoire qui n'avait pas été racontée de l'intérieur,
c'est vrai.
La faire partager avec les Français, et puis que nous réfléchissions collectivement à la manière de faire.
Ouais.
Parce que le pays est en train de s'écrouler économiquement, il est en proie à de très nombreuses tensions, il est quand même d'une certaine manière assez démoralisé. Donc quel est le projet sur lequel on va tous s'engager? Moi, je cherche ça. Je suis comme vous, finalement. Je suis comme tous les Français qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut rester chez soi, aller promener son chien? Je crois pas. Il va y avoir quand même quelques événements.
Faire du miel et puis beaucoup de choses quand même.
Mais c'est
vrai,
dans la rue, dans le métro, les gens me disent « Monsieur Montebourg, c'est très bien, vous défendez les abeilles, vous faites du miel, c'est très bien, vous plantez des amandiers, félicitations. Mais et la France et nous ?» Oui, c'est vrai. Donc, on ne peut pas non plus s'abstraire d'une responsabilité au minimum de citoyen, et c'est la raison pour laquelle j'ai repris la parole pour dire ce que je pensais. Voilà.
Alors,
ce n'est pas un crime, je ne crois pas.
Non, mais bon, alors pour s'engager, après, il faut quand même aussi avoir des soutiens. Là, il y a la France Insoumise qui vous fait du pied. Vous répondez en fait à ça ou pas?
Non, mais les partis politiques ne m'intéressent pas. J'ai quitté un parti politique, c'est pas pour entrer dans un autre.
Ouais.
J'ai quitté le Parti Socialiste sans fracas, sur la pointe des pieds, parce que je considère qu'ils ne sont pas en mesure de traiter les problèmes. Bon, voilà, c'est tout. Et pour moi, un attelage à la place d'un autre ne résoudra pas le problème. Le problème de notre pays, c'est son unité. C'est comment on arrive à construire un compromis entre des forces qui ne sont pas d'accord, mais qui doivent trouver un accord pour remonter le pays.
Oui,
voilà.
Mais...
moi, je n'ai pas d'autres questions.
Oui.
Donc, les uns, les autres, les verts, les bleus, les rouges, les roses, moi, excusez-moi, ça ne m'intéresse pas.
Après, il y a les électeurs, en fait, derrière. Vous pouvez parler à tous les électeurs.
De moins en moins. De moins en moins. Il y a combien d'électeurs, par exemple, qui ne savent pas pour qui ils vont voter?
J'en fais
partie.
Moi,
je ne sais pas pour qui je vais voter. Je ne sais pas encore.
Ouais.
Donc on réfléchit.
Ouais. Bah, vous allez voter pour vous, si vous vous présentez.
Bah, excusez-moi, vous savez ce que c'est qu'une présidentielle ?
Oui.
Ça coûte combien ?
Oui.
Moi, j'ai pas de parti politique, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Donc, de quoi vous me parlez ? Vous dites que vous avez voté pour
non,
vous.
Non, non,
mais vous avez voté pour qui ? Pour vous ?
Non, mais si vous aviez, en fait...
Qu'est-ce que vous racontez ? Vous racontez n'importe quoi, monsieur
Arnaud
Montebourg.
Arnaud Montebourg, alors... matin,
comme ça, vous me prenez frais.
Si vous aviez une machine autour de vous... Non, mais je comprends, bien sûr, il faut un peu d'argent.
Mais je n'ai pas.
Oui.
Je n'ai pas.
Alors, il faut peut-être faire des alliances. Vous pourriez faire des alliances ?
Écoutez, je ne fais pas d'alliance. Ça ne m'intéresse pas.
Ouais.
Pour l'instant, je défends des positions.
Ouais.
Vous avez eu la gentillesse de rappeler que sur la démondialisation, le Made in France, il y avait des éléments précurseurs dans ce que j'avais défendu.
Ouais.
Maintenant, ces idées-là sont dominantes et majoritaires.
Ouais.
Donc, il faut les mettre au pouvoir.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc, il faut trouver le moyen de les mettre au pouvoir.
Ouais.
C'est ce à quoi je réfléchis. Permettez-moi d'y réfléchir et de le dire à voix haute, en toute sincérité.
Oui, voilà, c'est ça. Quand vous voyez, par exemple, François Hollande qui a envie de revenir, qu'est-ce que vous vous dites ?
Qu'est-ce que qu'il lise mon livre ?
Oui.
Il faudrait qu'il
vous
le lise.
Vous lui avez envoyé, d'ailleurs ?
Ah, faut que je lui envoie.
Bah
je vais lui envoyer, j'ai oublié.
Et Manuel Valls, Emmanuel Macron, vous avez envoyé
aussi ?
Ah non,
aussi, ça, il faut qu'ils l'achètent, eux.
Oui.
Eux, faut qu'ils l'achètent.
Voilà.
Vraiment.
Oui. Bon,
ça fera du bien.
Ouais, on sent qu'il y a
toujours... Il faut les délester un peu de 22 euros, ça fera pas de mal.
Ouais. Dites-moi, sur l'économie, là, parce que avec la crise, en fait, du Covid, la France, évidemment, s'endette. Vous êtes prononcé pour une annulation de la dette. Vous maintenez cette affirmation ? C'était pas un peu simpliste ?
Je voudrais qu'on ne caricature pas cette
position. Oui, c'est vrai.
Il s'agit d'une position, d'abord, défendue par de nombreux économistes, défendue, y compris par des investisseurs institutionnels, est défendue par certains pays européens, notamment l'Italie, qui disent la dette Covid, pas la dette antérieure, la dette Covid est insoutenable. On ne pourra pas la rembourser avant longtemps, sauf si on fait des plans d'austérité. Parce que soit on la rembourse ensemble et on va tuer l'économie européenne, j'ai fait les comptes, 500 milliards de dettes sur 20 ans, comme l'a proposé le ministre de l'économie Bruno Le Maire, c'est 37% d'augmentation d'impôt sur le revenu pendant 20 ans. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est juste impossible. Donc, comment on fait ? Il faut trouver une stratégie comme celle que les Américains ou les Anglais ont inventée, qui consiste à monétiser la dette. C'est-à-dire qu'en fait, on ne spolie personne, les créanciers ne sont pas spoliés, c'est la Banque Centrale Européenne qui achète les titres de publics, sur le marché secondaire même, pour les mettre dans son bilan. Et la Banque des règlements internationaux, qui n'est rien d'autre que la Banque Centrale des banques centrales, a préconisé l'annulation dans le bilan des banques centrales d'un certain nombre d'éléments d'endettement. Dans le monde entier, cette question va se poser.
Ouais.
Cette pandémie nous a coûté, les bras et les jambes.
Ouais, ouais.
Et on va continuer ?
Ouais.
Donc cette question, il faut la poser de façon concertée vis-à-vis avec tous les pays européens, et le faire avec la Banque Centrale Européenne.
Ouais.
Mais ne surtout pas en faire un sujet tabou. Ouais. Parce que le sujet qui n'est pas tabou, c'est les augmentations d'impôts. On va les prélever sur qui, les 500 milliards de dettes ? Sur qui on les prend ? Les entreprises, on va les tuer.
Ouais.
Les ménages, on va les tuer.
Ouais.
Alors qu'est-ce qui va rester ?
Mais
cette question, elle est quand même
sérieuse. Bien sûr. Certains disent... Arnaud Montebourg, là, il fait du populisme, en fait, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez, en fait, aussi à cela ?
Moi, je ne comprends pas cette réaction.
Ouais.
L'article 2 de la Constitution, du 4 octobre 1958, je ne suis pas l'auteur de cette Constitution, c'est celle qui nous engage tous, dit que la France, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et ce n'est pas populiste, ça. Il faut quand même prendre en compte les aspirations de la multitude, des gens. C'est ça, la politique. C'est même le but ultime de la politique. Le souverain... C'est pas les marchés, c'est pas les experts, c'est pas les énarques. Le souverain, c'est qui ? C'est qui le patron ?
Ouais.
C'est qui ? Ben, c'est les gens, c'est les électeurs.
Voilà.
C'est ce que
c'est un peu contre les élites, alors c'est pour ça
qu'on
dit...
Mais c'est pas contre les élites.
Non.
C'est que y a pas les élites, ça c'est d'une société aristocratique. Il y a la noblesse, le tiers état.
Non, mais vous avez parlé en fait de certaines élites tout à l'heure.
Excusez-moi. La volonté populaire, la souveraineté populaire, c'est une conquête de la Révolution française.
Ouais.
Et donc, c'est la base de notre système démocratique. Donc, quand on dit c'est populiste parce qu'on défend le plus grand nombre, excusez-moi, c'est juste naturel.
Ouais. Arnaud Montebourg, question avec Cécile Ménibus.
Oui, je vous ai bien écouté, bien lu. Vous dites que vos activités sont, je vous cite, en ce moment, une cure de jouvence et de bonheur. Voilà. Quand on lit votre livre, la politique, c'est violent, c'est brutal, c'est une machine à trahir. Mais vous êtes complètement fou de vouloir y retourner.
Bah écoutez, là je n'y retourne pas, je suis en train de me préoccuper du sort de mon pays.
Ouais.
D'abord parce que la France ne m'a jamais quitté, c'est normal, et y compris dans les entreprises équitables que j'ai fondées, qui a une vision, j'allais dire, écologique, mais aussi équitable. C'est-à-dire qu'on partage la valeur avec l'agriculteur, le producteur, l'apiculteur, autant que possible. C'est une sorte de société d'entraide entre le consommateur et le producteur. Hein. C'est ce modèle économique alimentaire équitable. Et donc, moi, tous les jours, je me dis, on pourrait changer encore plus grandement les choses en utilisant la politique au soutien d'un certain nombre de mutations importantes dans l'économie.
Oui, mais si pas les présidentielles, pourquoi pas les régionales, par exemple, Bourgogne-Franche-Comté.
Mais parce que moi, j'ai déjà fait tout ça. J'ai déjà été président de mon département.
C'est vrai, président, vous n'avez jamais fait.
Certes, oui, c'est vrai. Enfin, bon, c'est aussi une tâche difficile.
Non, je disais président de la République.
D'accord. Écoutez, non, je ne sais pas quoi vous répondre. Oui. Ce que je veux vous dire, c'est que pour l'instant,
en tout cas, ça ne vous fait pas peur d'y retourner.
Mais je suis dans. J'ai décidé de reprendre la parole parce que il est important que tout le monde sache ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et comment on pourrait éviter que ça se reproduise. Voilà, je peux apporter cette contribution à ce stade, c'est déjà pas mal.
Ouais. Vous êtes toujours de gauche ou pas ?
C'est déjà pas mal.
Ouais. Arnaud Montebourg, vous êtes toujours de gauche ou
pas ? Je suis un homme de gauche.
Ouais, un homme de gauche ?
Un homme de gauche qui a une vision peut-être différente de l'économie, de la République, mais je suis un homme de gauche, j'ai toujours été. Pourquoi ? Et d'ailleurs, mes idées sont connues, en fait.
Ouais, ouais.
Mes idées sont connues, il n'y a pas de mystère, ni de.
Et pas, forcément, pas forcément du PS.
En tout cas, ce n'est plus mon parti.
Merci Arnaud Montebourg.
Merci à vous.
Invité ce matin de Sud Radio.
Et dans un instant, le journal de 8h. À tout de suite.